John Strobin s'assure sur la vie, par José Moselli. Les temps sont durs. À aucune époque, la vie ne fut plus âpre. Si l'art de soutirer l'argent de la poche ou du coffre-fort de son semblable n'a jamais été si perfectionné, il faut avouer que la science apportée à mettre à l'abri ce même argent est également ingénieuse et subtile. Chaque jour, il devient plus difficile de s'approprier le bien du voisin. Toutes les combinaisons ou presque ont été essayées. Elles sont connues et par là de nulle valeur. Il faut en trouver d'autres. Refaire son prochain devient un art qui, hélas, est à chaque instant entravé par des policiers ignares. Oui, les temps sont durs. Ces pessimistes constatations, John Strobin dut certainement se les faire lorsqu'il combina l'affaire la plus hasardeuse de sa carrière, celle qui suffirait à légitimer sa célébrité. De fait, John Strobin joua là une formidable partie, et son audace fut d'autant plus étonnante que rien ne l'obligeait à tenter une aussi téméraire entreprise. Semblable à certains joueurs heureux, la difficulté, l'épouvantable enjeu de cette partie l'attirèrent. On ne peut expliquer qu'ainsi l'acte de John Strobin. Ce fut un peu avant 10 heures du matin, un lundi pour préciser, que le détective cambrioleur engagea son affaire. Vêtu élégamment d'un costume de drap gris s'ouvrant sur un gilet brodé, les pieds chaussés de fins souliers de peau blanche, un panama de $1000 nimbant sa face énergique, John Strobin quitta l'hôtel Monterey où il avait passé la nuit et de son pas souple et rapide, se dirigea vers le colossal building de la San Francisco Life Insurance Company, la plus riche compagnie d'assurance sur la vie de tout l'Ouest américain. Sans hésiter, John Strobin franchit le monumental porche de marbre et pénétra dans le salon d'attente à cajou et or, où de nombreux huissiers se tenaient à la disposition du public. John Strobin s'en avisa un et de la main lui fit signe de le rejoindre. L'homme obéit. John Strobin tira de sa poche un mince portefeuille de maroquin chiffré d'or. Il en sortit une carte de visite ainsi libellée, John. Il attendit à l'huissier en disant « Remettez ma carte au directeur immédiatement. Je n'ai que peu de temps à moi. C'est pour une très grosse affaire à régler sur le champ. Allez !» L'huissier s'inclina, et tout en se dirigeant vers le bureau du directeur de la San Francisco Life, il jeta les yeux sur la carte qu'il tenait. « John, en voilà un nom, Mr. John. Enfin, on en voit de drôles dans la vie. Quel peut être ce client au nom si court ?» Telles furent les réflexions de l'huissier. Aussi, ce fut avec une physionomie légèrement narquoise qu'il pénétra dans le vaste hall qui servait de cabinet de travail à M. Stanley Howard, président de la San Francisco Life Company. M. Howard saisit la carte que lui tendait l'huissier et à son tour marqua quelque étonnement à la vue de ce nom laconique, John. Il demanda « Quel est cet homme? Est-ce un gentleman ?»« Je le crois, monsieur le directeur. Il possède un Panama au moins aussi beau que celui du président Shaft. Il dit qu'il vient pour traiter immédiatement une très grosse affaire et « Well, faites-le entrer !» L'huissier s'inclina et sortit. Il regagna le salon d'attente et vint dire à John Strobin, qui attendait en fumant une odorante cigarette « Veuillez me suivre, gentleman !» John Strobin eut un léger sourire. Vraiment, il était très calme. Il saisit la main de l'huissier et y glissa une banknote de $10 en murmurant « Voici pour vous remercier de votre zèle, mon ami. Comment vous nommez-vous ? Thomas Burton. Bien, alors je vous suis, Thomas Burton. » Aux côtés de l'huissier, John Strobin s'arriva devant la porte du cabinet directorial. Son guide l'ouvrit, s'effaça pour laisser passer le visiteur, referma et s'en retourna. John Strobin, très poli, s'inclina légèrement devant les directeurs de la San Francisco Life, et avec une aisance, un naturel parfait, s'assit dans le fauteuil que M. Howard lui désignait de la main, il parla. « L'affaire qui m'amène ici est assez importante. Vous jugerez donc bon, monsieur, qu'avant tout, je vous donne quelques éclaircissements. » M. Howard hocha la tête affirmativement. Il tenait toujours dans sa main la bizarre carte de visite, comme pour en demander l'explication. John Strobin s'en aperçut. « John est bien mon nom, » reprit-il. « J'en ai en vérité un autre assez connu, je dirais même plusieurs autres. Mais parlons du but de ma visite. Bien que vous ne me remettiez pas, je vous connais assez, Monsieur Howard, pour savoir que vous êtes homme d'honneur et, comme tout bon Américain, désireux de faire des affaires. Ce sont ces deux raisons qui m'ont décidé à m'adresser à vous pour ce qui motive ma présence ici. Je vous écoute. Mon nom vous est connu, John Strobin. M. Stanley Howard tressaillit légèrement. Il tourna les yeux vers le bouton d'ivoire d'une sonnerie électrique posée sur son bureau. « Oh, M. Howard, ne craignez rien !» fit vivement le détective cambrioleur. « Je viens ici en client, vous entendez ? En client ! Pour une fois, je me mets sous la sauvegarde des lois. Hélas, je vieillis. Je vais avoir 30 ans dans 3 mois. Et le moment est venu pour moi de penser à l'avenir. » John Strobbins fit une pause. Ses yeux rencontrèrent ceux de M. Howard qui le regardait avec un étonnement évident. Il poursuivit. « J'ai étudié les lois générales de l'Union et celles particulières de l'État de Californie. Je sais par conséquent qu'un contrat d'assurance est insaisissable et inviolable. Je ne me trompe pas, n'est-il pas vrai ?»« Parfaitement, » répondit le directeur de la San Francisco Life, qui maintenant avait repris son calme. « Vous me faites plaisir de me l'affirmer. Vous le savez, j'ai commis de nombreuses peccadilles. Je veux dire que j'ai fait du commerce à ma façon. Certains commerçants s'enrichissent en cédant contre du bon argent des marchandises de nulle valeur. Des artistes acquièrent la fortune en changeant des couleurs de place. Ils les mélangent, les retirent de leurs tubes et les étendent sur des toiles. Qu'ai-je fait d'autre après tout ? J'ai pris l'argent de mes contemporains et ne les ai même pas embarrassés d'objets sans valeur. Supériorité sur les commerçants. Mon art s'est exercé dans la serrurerie. J'ai trouvé des moyens inédits d'ouvrir les plus solides coffres-forts. Je puis donc dire que je mérite la modeste fortune que mon ingéniosité me valut, n'est-ce pas ? Vous savez, moi, murmura M. Howard, qui ne voulait pas se compromettre. Vous êtes bien aimable, cher monsieur. Donc, ayant acquis une fortune, je désirerais qu'à défaut de moi, un malheur est si vite arrivé, et les policiers sont bien maladroits, mes descendants, ou pour mieux dire mes amis, en profitassent. Je voudrais m'assurer sur la vie de façon à ce qu'en cas de mort, ma fortune ne disparaisse pas. M. Howard respira. Certes, la proposition était au moins étrange et inattendue. Assurer John Strobbins sur la vie. L'affaire paraissait scabreuse. Mais quelle publicité pour la San Francisco Life Company ! Quel pouvait être le mobile de John Strobbins ? M. Howard se le demanda. Après tout, lui ou un autre, pourvu qu'il payât régulièrement les primes, on ne pouvait lui en demander davantage. Il parla. « Votre désir est très naturel, cher monsieur, et pour quelle somme désirez-vous vous assurer ?» John Strobbins fronça les sourcils. « Pour une somme assez forte. Car bien que mon argent soit déposé presque en totalité à l'étranger, j'ai de nombreuses propriétés dans le territoire de l'Union, et je désirais que mes héritiers en touchassent au moins l'équivalent. Je voudrais m'assurer pour... « Oui, pour 3 millions de dollars. »« 3 millions de dollars ?» M. Howard s'attendait à tout, sauf à l'énoncé d'une somme aussi énorme. Il répéta, « 3 millions de dollars ?»« Oui, 3 millions de dollars. » »« La San Francisco Life n'a-t-elle pas les reins assez solides pour me garantir cette somme moyennant le paiement d'une prime convenable ? Sinon, je m'adresserai ailleurs. » M. Howard se redressa. « M. McBoney, le roi du saumon, est assuré chez nous pour 10 millions. »« Je le connais. » « Tenez, voici une bague qui me vient de lui, » répondit Strobbins, très calme. « Bref, combien devrais-je payer de primes annuelles ?» M. Howard saisit un cahier à reluire de cuir rouge posé sur son bureau. Il le feuilleta en murmurant. « Je ne sais vraiment pas en quel métier vous rangez au point de vue des risques professionnels. Voyons, agent de chemin de fer, non. Officier en mission aux Philippines, non. Votre métier est encore plus dangereux. Ah !» « Policier, oui. Policier, somme toute. Vous courez les mêmes risques. Policier, oui. La prime est de 10% pour risques supplémentaires. »« C'est un peu cher, » coupa doucement John Strobbins. « Somme toute, ma vie est plus en sûreté que celle des policiers. Ne tuant jamais personne, je ne risque, pour ainsi dire, pas d'être tué. Si je suis pris, je ne serai jamais condamné qu'à la prison. Et l'on vit longtemps en prison. Non, 12% suffisent. » D'autant plus que je suis jeune, que ma santé est bonne, ma constitution excellente. Voici un certificat du professeur Alan Gordon qui l'atteste, et que j'espère vivre longtemps. 12% sur 3 millions de dollars, cela fait 360 000 dollars par an. Si vous acceptez, je vous remettrai immédiatement un chèque de cette somme sur la California Bank. Naturellement, il est bien entendu que l'assurance devra être payée à la personne désignée par moi, quel que soit mon genre de mort, n'est-ce pas ? J'entends que cette condition soit nettement spécifiée sur ma police. Parfaitement, cela ne souffre aucune difficulté, pourvu toutefois que votre mort soit légalement constatée par un officier de l'état civil, affirma M. Howard. Nous sommes d'accord. Alors, cela va à 12%? M. Howard resta silencieux. Il prit le certificat médical que John Strobbins lui tendait et l'examina. Il était en règle. Somme toute, l'affaire paraissait intéressante. John Strobbins était sain, jeune, habile. Il vivrait certainement plus de 10 ans encore, et alors quel bénéfice! Sans compter la publicité excellente que l'annonce de ce contrat allait constituer pour la compagnie. Eh bien, cher Monsieur Strobbins, je vous demande 24 heures pour consulter le conseil d'administration sur l'affaire que vous me proposez. Je crois que nous nous entendrons. Mais il est bien décidé que les primes seront payables annuellement et d'avance, le moindre retard entraînant la déchéance et les primes restant acquises à la compagnie. Vous espérez donc me voir faire coffrer, Monsieur Howard ? Fit Strobbins, railleur. N'importe, j'accepte. Le détective cambrioleur se leva. Aimable, il s'inclina devant le directeur de la San Francisco Life Company et se dirigea vers la porte en disant « À demain !» Le lendemain de la visite de John Strobbins au digne M. Howard, tous les journaux de San Francisco publièrent en gros caractères la note suivante. « Quel est le critérium de l'honorabilité d'une entreprise et de sa fidélité à tenir ses engagements ? Sans hésiter, nous pouvons dire « c'est l'estime des voleurs ». L'estime des voleurs ? La San Francisco Life Insurance Company a mieux que cela. Par un choix flatteur entre tous, le célèbre détective cambrioleur John Strobbins s'est adressé à elle pour faire mentir le proverbe qui dit que « bien mal acquis ne profite jamais ». John Strobbins, et on ne peut que l'en féliciter, a voulu que ses compagnons, s'ils venaient à mourir, récupérassent en partie la perte que leur causerait sa disparition. Il s'est assuré sur la vie pour la coquette somme de 3 millions de dollars à la San Francisco Life Insurance Company. Le plus faible commentaire affaiblirait la portée d'un pareil acte. La confiance de John Strobbins, homme méfiant par nécessité, témoigne de la réputation d'intégrité qu'a su se faire la San Francisco Life Insurance Company depuis sa fondation, qui remonte à 1867. Nous tenons à la disposition des incrédules la copie authentiquée par la municipalité de la police souscrite par John Strobbins. Pour tout renseignement, s'adresser à M. Stanley Howard, directeur. Ce jour-là, comme tous les autres, M. Stanley Howard arriva à 9 heures à son bureau. C'était un homme de principe. Il s'assit dans son fauteuil et, suivant sa coutume, attira à lui les journaux épars devant lui pour les lire. Ayant signé la veille le contrat d'assurance de John Strobbins, il avait dans la soirée envoyé aux journaux la note citée plus haut, avec ordre de la faire passer en première page, et ne doutait pas qu'une annonce aussi sensationnelle ne décuplât le chiffre d'affaires de la San Francisco Life Company. Aussi, ce fut avec un sourire satisfait qu'il ouvrit la première feuille qui lui tomba sous la main. C'était le Pacific Times. Il est certain que M. Stanley Howard s'attendait à voir le nom de John Strobbins imprimé en lettres grasses sur la première page de ce journal. Mais il est encore plus certain que le directeur de la San Francisco Life n'espérait pas que ce soit en si gros caractère, car le nom de John Strobbins flamboyait sur la manchette du Pacific Times en lettres hautes de 3 cm. À la vérité, les mots dont était entouré le nom de John Strobbins détruisaient entièrement toute l'influence que cette publicité inattendue aurait pu avoir sur les clients éventuels de la San Francisco Life Company. La tournée générale Harry Boulder assassinée par John Strobbins. Le magistrat était retrouvé ce matin, poignardé dans son appartement de la Florida Avenue, notre enquête. Pendant quelques instants, Stanley Howard se demanda s'il ne rêvait pas. John Strobbins, assassin, lui qui ne tuait, ne blessait même jamais personne. Et cela, le lendemain du jour où il s'était assuré sur la vie. Non, ce n'était pas possible. Assassin, John Strobbins, mais dans ce cas, il était passible de la chaise électrique, et alors ? Alors, la San Francisco Life Insurance Company devrait payer 3 millions de dollars ? Puisqu'au sud de toute l'Amérique, maintenant, le célèbre détective cambrioleur était assuré pour cette somme. Ah, il avait eu une bonne inspiration à Stanley Howard de traiter avec John Strobbins. Il aurait pourtant dû s'en douter. Malgré ses réflexions pessimistes, le directeur de la San Francisco Life conservait encore quelque espoir. Somme toute, on l'avait vu d'autres fois, la police pouvait se tromper. Il convenait de s'enquérir avant de désespérer. Stanley Howard essuya de son mouchoir la sueur humectant ses tempes, aspira une large goulée d'air et s'étant bien carré dans son fauteuil d'acajou, lut attentivement le récit du crime de la Florida Avenue. Cette nuit, quelques minutes avant 2 heures du matin, le détective Anthony Preston, qui, son service fini, regagnait son logis, était arrivé devant le numéro 261 de la Florida Avenue lorsqu'il vit la porte de cette maison, qu'il connaissait pour être la demeure de l'attorney général Harry Boulder, s'ouvrir brusquement. Deux hommes, qui en soutenaient un troisième, sortirent, et sans même refermer la porte, coururent vers la 33e rue, qui débouche 40 mètres plus loin, dans la Florida Avenue, et disparurent bientôt après avoir tourné l'angle. L'homme qu'ils entraînaient devait être blessé, car il paraissait se tenir avec peine sur ses jambes. Pris d'un pressentiment, et de plus, intrigué par ce qu'il venait de voir, Anthony Preston s'élança à la poursuite des trois hommes. Arrivé au coin de la 33e rue, il aperçut une puissante automobile dans laquelle les deux inconnus poussaient leurs camarades. Anthony Preston, d'ailleurs, n'eut pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto. Il en était encore à plus de 20 mètres lorsque les deux hommes et leurs camarades y étaient montés. Elle démarra avec une vitesse foudroyante dans la direction du port. Anthony Preston remarqua que ses lanternes en cuivre et de dimensions énormes n'étaient pas allumées, et que son moteur, sans doute très puissant, était silencieux à un tel point que le détective était arrivé à 20 mètres de la voiture sans en entendre le ronflement caractéristique. Le détective, comprenant l'impossibilité où il se trouvait de rejoindre l'automobile, siffla pour avertir les policemen environnants. Malheureusement, et sans doute parce que c'était l'heure de la relève, personne ne répondit à son appel. Se voyant seul, Anthony Preston résolut d'examiner la maison d'où étaient sortis les trois inconnus. Il rebroussa chemin et atteignit rapidement le 261 de la Florida Avenue. La porte en était toujours ouverte. Sans hésiter, le détective franchit le seuil. Dans le vestibule, une lampe électrique, fixée au plafond, éclairait la pièce où rien ne paraissait avoir été dérangé. Anthony Preston alla fermer la porte de la rue. Il saisit son revolver, par mesure de précaution, et entra dans la première pièce dont la porte s'offrit à lui. Elle était obscure et silencieuse. Grâce à la clarté de la lune filtrant à travers les lames des volets clos, le détective reconnut qu'il était dans un salon. Il éleva la voix pour appeler « Hola, quelqu'un ?» Il attendit quelques instants sans recevoir de réponse. De plus en plus intrigué, il répéta son appel, toujours sans succès. Il regagna le vestibule et au hasard monta au premier étage. Il vit plusieurs portes, toutes fermées. Il frotta une allumette bougie à la lueur de laquelle il aperçut le commutateur d'une lampe électrique qu'il tourna. Au plafond, une lampe s'alluma. Sur une des portes peintes en blanc, le détective reconnut distinctement l'empreinte d'une main humaine imprimée en rouge. Nul doute, un crime avait été commis. Anthony Preston, son revolver au poing, ouvrit délibérément la porte et entra. La lampe électrique du palier éclairait assez la pièce, pour qu'aucun détail n'échappât au détective. Il était dans une chambre à coucher, garnie de somptueux meubles de palissandre, dans la propre chambre à coucher de l'honorable Harry Boulder, attorney général de l'État de Californie. Sur l'épais tapis, deux chaises gisaient renversées. Un des rideaux de velours de gêne garnissant la large fenêtre avait été arraché de son support. Déchiré en deux, il était tombé, entraînant l'embrasse de cuivre doré. Sur le tapis, des taches de boue et des pas indiquaient une lutte féroce. Anthony Preston, ayant découvert le commutateur de la lampe électrique posée sur la table de nuit, le tourna. Une vive lueur illumina la pièce. Le détective en profita pour continuer son inspection. Soudain, il retint une exclamation d'horreur. Dans un angle de la pièce, un grand paravent fait de feuilles de palissandre incrustées était posé. Anthony Preston, ayant replié ce paravent, découvrit derrière un homme, un vieillard, l'attorney Harry Boulder, pour tout dire, assis sur une chaise et penché, immobile, sur un petit secrétaire. Harry Boulder était immobile parce qu'il était mort. Une robe de chambre de laine brune l'abritait, et un peu plus bas que sa nuque, le manche d'ivoire d'un poignard, enfoncé jusqu'à la garde, luisait sous la clarté du lampadaire électrique. Le magistrat avait dû être frappé sans qu'il s'en aperçût, car ses traits étaient restés calmes. Il semblait dormir. De la plaie, peu de sang avait coulé. La robe de chambre l'avait bu, car pas une goutte ne tachait le tapis. Devant le magistrat, quelques papiers, ceux qu'il examinait sans doute lorsqu'il avait été frappé, avaient été laissés par les assassins. Sans doute, ceux-ci, leur forfait accompli, s'étaient disputés, d'où les traces de lutte relevées dans la chambre à coucher. Anthony Preston, redevenu calme, continua ses investigations. Il ne découvrit plus rien. Les meubles étaient intacts. Aucun d'eux n'avait été touché. Le détective fouilla rapidement la maison, elle était vide. Personne. Les assassins savaient sans doute que le vieillard était seul. Anthony Preston allait s'en aller lorsqu'il aperçut dans la chambre à coucher une moitié de bouton de manchette en or portant ses initiales entrelacées J.S. Il la ramassa. Sans s'attarder plus longtemps, le détective sortit de la maison du crime, ferma soigneusement la porte derrière lui et courut à l'hôtel de la police où, quelques minutes plus tard, M. James Molescott, chef de la sûreté de San Francisco, le rejoignait. Anthony Preston lui fit aussitôt le récit de sa découverte et lui remit le bouton de manchette trouvé dans la maison de la Florida Avenue. « J.S. » s'écria M. James Molescott. « C'est John Strobbins. Il n'y a que lui pour perpétrer un crime aussi audacieux. D'ailleurs, je possède l'empreinte de ses doigts. Nous serons vite fixés. » Sans tarder, M. James Molescott, accompagné d'Anthony Preston et de quatre autres détectives, se rendit au domicile de l'infortuné attorney général. Vu leur avancée et la nécessité de procéder au tirage de notre journal, nous n'avons pu continuer notre enquête. Cependant, nous croyons savoir que les empreintes vues par le détective Preston sont bien celles de John Strobbins. Ainsi se terminait l'article du Pacific Times. D'un geste rageur, M. Stanley Howard froissa le journal et se leva. Les employés de la San Francisco Life Insurance le virent, hagard et congestionné, sortir comme un fou. Ils couraient chercher des détails. Depuis quelques années qu'ils poursuivaient vainement John Strobbins, James Molescott n'avait encore éprouvé de joie comparable à celle que venait de lui occasionner le récit du détective Anthony Preston. L'honorable chef de la sûreté de San Francisco pensait bien, cette fois-ci, prouver la culpabilité de John Strobbins, l'appréhender et assister à son électrocution. Déjà une fois, Molescott avait cru prouver la culpabilité de John Strobbins dans un assassinat, mais devant la découverte du vrai coupable, l'innocence du détective cambrioleur avait dû être reconnue. Depuis, John Strobbins s'était joué de Molescott, qui, par une sorte d'habitude, pensait aussitôt à lui chaque fois que se commettait un crime de quelque envergure. C'est pourquoi, à la vue du bouton de manchette marqué J.S., Molescott s'était aussitôt écrié « J.S., John Strobbins !» Arrivé à la maison de l'attorney général, James Molescott commença son enquête. Aux côtés de Anthony Preston, il gagna la chambre du crime, tandis que les quatre autres détectives qui l'accompagnaient fouillaient les moindres recoins de l'élégant cottage. Ses recherches, du moins celles effectuées dans la maison, ne donnèrent d'abord aucun résultat. Elles démontraient simplement 1. Que l'attentat avait été prémédité, 2. Que les assassins connaissaient la maison. Ils savaient certainement que depuis 3 jours, M. Harry Boulder avait donné congé à son domestique. L'attorney général avait en effet annoncé à tous ses amis qu'il partait en villégiature à Pasadena. C'est pourquoi nul ne s'était inquiété de sa disparition. On le croyait parti. Et sans la rencontre fortuite du détective Anthony Preston, le crime n'eût été découvert que bien plus tard. Une chose également était évidente, les assassins s'étaient colletés après le crime. Cette dernière hypothèse était la plus hasardeuse, mais James Molescott l'admettait en attendant mieux. Ses investigations terminées, le chef de la sûreté de San Francisco fit prévenir par téléphone le service anthropométrique pour que celui-ci eût à prendre livraison de la porte où un des assassins avait laissé sa sanglante empreinte. James Molescott, n'ayant plus rien à faire dans la maison de l'honorable Harry Boulder, se retira avec ses hommes et regagna l'hôtel de la police tandis que ses détectives, habilement camouflés, commençaient leurs recherches. À 11 heures, James Molescott reçut les conclusions du médecin légiste qui avait été chargé d'examiner le cadavre de l'infortuné à Tornay. Ses conclusions étaient effarantes, elles affirmaient que le meurtre avait été commis depuis plus de 48 heures. Mais alors, était-ce bien les assassins qu'Anthony Preston avait vus? James Molescott n'y comprenait plus rien. Il tenta de s'expliquer ce mystère en se disant que les criminels, ayant sans doute oublié quelque chose, les boutons de John Strobbins, peut-être, étaient venus le chercher. Midi sonna que le chef de la sûreté réfléchissait toujours. James Molescott se disposait à aller déjeuner lorsqu'un planton pénétra dans son cabinet et lui remit une enveloppe cachetée. Elle émanait du service anthropométrique. James Molescott la reconnut aussitôt, ses yeux luirent. Il saisit un coupe-papier et fébrilement ouvrit l'enveloppe et lut. Monsieur James Molescott, l'empreinte laissée sur la porte de l'honorable Harry Boulder est, sans le moindre doute possible, celle de John Strobbins. sa netteté, son étendue, m'ont permis de la comparer avec celle que nous possédons déjà de ce délinquant et avec laquelle elle est absolument identique. Le chef de service anthropométrique, Schmitz. By God, j'en étais sûr, le bandit. Cette fois-ci, il ne pourra pas nier. Je l'aurai. À nous deux, John Strobbins. S'écria le chef de la sûreté de San Francisco en se levant, joyeux. Il regarda le planton immobile devant lui et dit « C'est bien, vous pouvez disposer. » L'homme se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Il fut presque renversé par un homme qui, la face rouge et suante, se précipita dans le cabinet du chef de la sûreté. « Quoi? Que voulez-vous ? » s'écria Moscott, croyant avoir affaire à quelque fou. Il saisit le revolver posé sur son bureau et le braqua dans la direction de l'inconnu. Celui-ci s'arrêta net. « Oh, ne tirez pas ! Je suis un citoyen honorable. » Stanley Howard, directeur de la San Francisco Life Insurance Company. Depuis ce matin, je vous cours après. Partout, on me dit que vous venez de partir. J'étais à Florida Street. Votre détective ne m'ont pas laissé entrer. L'un d'eux m'a menacé de m'arrêter si j'insistais. Enfin, je suis venu ici. J'ai profité de ce que les hommes allaient dîner pour passer. J'ai vu votre porte ouvrir, et alors je suis entré. Et que me voulez-vous ? Fit froidement Moscott, qui avait écouté parler Stanley Howard sans l'interrompre. Vous savez que ma compagnie a assuré avant-hier soir John Strobbins sur la vie pour la somme de 3 millions de dollars et je voudrais savoir. Je sais, je l'ai vu sur les journaux de ce matin. Qu'elle réclame ? Eh bien, je vais vous dire ce que vous désirez savoir, répondit James Moscott avec une joie féroce. John Strobbins, coupable d'assassinat, s'est d'ores et déjà prouvé, sur la personne de l'honorable Harry Polder, va être capturé incessamment. Il sera jugé à mort et exécuté. Et votre compagnie devra payer 3 millions de dollars. Cela vous apprendra à traiter avec des assassins. Maintenant, gentlemen, je vous prie de vous retirer. Goodbye. Stanley Howard, abattu comme s'il venait de recevoir un coup de massue, ne trouva rien à répondre. Titubant, il gagna la porte à reculons et disparut. James Moscott posa son revolver sur son bureau. Il était content de lui. Il passa son pardessus, coiffa son chapeau et sortit. Il déjeuna rapidement dans un restaurant du Moyen-Âge et rejoignit au poste de police de Plower Street Anthony Preston, à qui il avait donné rendez-vous. Le détective paraissait profondément abattu. « Rien de nouveau, patron, » dit-il d'un ton triste. « Avec les camarades, j'ai interrogé tout le voisinage. Personne n'a rien vu, rien entendu. » Seul un locataire de la maison faisant face à celle de l'honorable Harry Boulder croit se rappeler avoir vu vers 1 h du matin deux gentlemen très bien vêtu, entré chez la tournée générale. Il pensa que c'était M. Boulder lui-même et un de ses amis et n'y fit pas attention. Cependant, il se souvient parfaitement qu'un des deux hommes était vêtu d'un court pardessus couleur mastic et de souliers vernis, c'est tout. Vous dites deux hommes ? Pourtant, vous en avez vu sortir trois. C'est ce que j'ai fait observer au témoin, mais il a maintenu ses dires. Et l'automobile ? Personne ne l'a vu. Personne. C'était une voiture très silencieuse. Les assassins ont dû la garer du côté du port. Et les empreintes, chef, étaient-elles bien celles de John Strobbins ? Oui. Le chef du service anthropométrique les a reconnues. Il faut absolument que nous nous emparions de ce bandit. Jusqu'ici, l'opinion publique, amusée par ses tours, le soutenait. Cette fois-ci, sa popularité est finie. Les deux hommes conversèrent encore quelques instants, puis James Moscott, songeur, sortit et se dirigea vers l'hôtel de la police. Un cigare en bouche, il marchait lentement en se demandant par quels moyens il s'emparait de John Strobbins. Le détective cambrioleur avait dû, certes, prendre ses mesures avant d'accomplir son crime, et à l'heure présente, il était loin et bien caché. Peu à peu, Moscott perdit sa bonne humeur. Ses démêlés avec John Strobbins n'avaient jusqu'ici prêté qu'à rire. Mais s'il ne parvenait pas à arrêter le cambrioleur devenu assassin, il sentait bien qu'il n'aurait plus qu'à résigner ses fonctions. Perdre 12 000 $ par an, sans compter le reste, cette perspective était triste. Ainsi, tout en marchant, James Moscott envisageait l'avenir. Une chose le tracassait. Quelle relation y avait-il entre l'assurance sur la vie souscrite par John Strobbins et l'assassinat de la tournée générale ? Moscott l'expliqua en pensant que le détective cambrioleur, résolu à se venger, avait fait le sacrifice de sa vie et avait voulu que sa mort profitât à ses amis. Ses amis, lesquels ? Je vais demander cela à M. Howard. Le nom du bénéficiaire de la police me fournira peut-être une piste intéressante. Cette réflexion fit hâter le pas à James Moscott. Oui, c'est cela. John Strobbins aura voulu se venger de la tournée générale, qu'il a sans doute fait condamner. Soudain, le chef de la sûreté de San Francisco s'arrêta net, comme médusé. Un frisson le secoua. Il se trouvait à ce moment à l'intersection de la Wyoming Avenue et de la 21e rue, et à moins de 20 mètres devant lui, un homme marchait lentement lisant un journal qu'il tenait devant sa figure. Sa lecture semblait l'intéresser énormément, car il ne faisait pas attention aux poussées et aux bourrades que ne lui ménageaient pas les passants pressés. Cet homme était vêtu d'un court pardessus couleur mastic et portait aux pieds d'élégants souliers vernis. « C'est John Robbins !» murmura Molescott en sentant son sang refluer de joie vers son cœur. Il jeta un rapide regard autour de lui, aucun policeman en vue, quelle malchance. L'homme au pardessus mastic, cependant, continuait à lire son journal. James Molescott s'arrêta. Il dissimula dans la poche de son manteau sa main armée d'un revolver et d'un pas tranquille, il marcha dans la direction de l'individu. Il en fut bientôt à 1 mètre, et sortant son revolver, il le braqua sur lui en criant « Les mains hautes, rascal, ou je tire !» L'homme tressaillit. Ses doigts s'ouvrirent et laissèrent échapper son journal que le vent emporta. James Molescott aperçut le visage, un visage complètement rasé, aux lèvres un peu pendantes. Les yeux étaient grands ouverts et exprimaient une stupeur profonde. La bouche, tremblante, avait une expression ignoble. C'était cela, le véritable visage de John Robbins. James Molescott ne se le demanda pas, il répéta « Hands up !» Main en l'air. L'homme obéit, tandis que la foule accourait, rendant maintenant toute fuite impossible. Le chef de la sûreté de San Francisco tira de sa poche une paire de menottes qui ne le quittait jamais et ordonna « Allons, canaille, tends tes mains ou je tire !» L'homme obéit encore. James Molescott, d'un geste professionnel, lui passa les menottes et dit « Maintenant suis-moi, canaille !»« Oh là là, on vous suit, quoi !» fit le prisonnier d'une voix rauque et l'emboîta le pas au policier. 10 minutes plus tard, James Molescott, triomphant, entrait avec son prisonnier à l'hôtel de la police. À la vérité, il ne reconnaissait pas John Robbins dans l'homme au visage bestial, à la voix crapuleuse qui l'avait arrêté. Mais John Robbins avait tant de fois changé d'apparence qu'il convenait d'attendre avant de se prononcer. D'autre part, l'homme pouvait être un des assassins de la tournée générale, sans être pour cela John Robbins, puisqu'ils étaient 3. Traînant à ses côtés son prisonnier, qui, il faut bien le dire, n'opposait aucune résistance, James Molescott traversa les couloirs au milieu de l'admiration des détectives. Il parvint ainsi à son bureau et sonna. « Priez M. Schmitz de venir, » ordonna-t-il au planton accoureux, « et appelez-moi 2 hommes pour maintenir le prisonnier. »« Oui, chef. » L'homme sortit, et presque aussitôt, 2 détectives arrivèrent. James Molescott leur confia John Robbins, ou du moins celui qu'il appelait de ce nom. Débarrassé de sa prise, James Molescott posa sur son bureau son revolver qu'il n'avait pas lâché, tira son mouchoir et s'épongea le front. Il avait chaud, autant par l'effet de sa course que par l'émotion que lui causait ce qu'il considérait comme un exploit admirable. Il toussa et dit « Eh bien, John Robbins, vous voilà pris. Je suppose que vous accepterez votre sort avec bonne grâce et que vous tenterez, par d'opportuns aveux, de vous concilier la bienveillance de vos juges, bien que vraiment vous en soyez indigne. Je ne suis pas John Robbins. C'est ce que nous allons voir. En tout cas, vous êtes un des assassins de l'honorable Harry Boulder, et je vous le répète, seuls 2 francs et immédiats aveux pourront vous sauver de la chaise électrique. » Le prisonnier ne répondit pas. James Molescott, agacé, tambourina nerveusement sur sa table. Dans le vaste bureau, le silence régna, qui permit soudain d'entendre 2 coups légers frapper contre la porte. « Entrez !» fit le chef de la sûreté. Par la porte entr'ouverte, un vieillard, vêtu de noir, le visage rasé orné de lunettes à monture d'or, entra et s'inclina devant James Molescott. Celui-ci, d'un geste, lui désigna le prisonnier et dit « Mes hommages, Monsieur Schmitz. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir prendre les empreintes de cet homme. D'après sa démarche et sa stature, j'ai tout lieu de croire, bien qu'il s'en défende, qu'il est John Robbins. Le chef du service anthropométrique jeta sur le prisonnier un coup d'œil scrutateur et murmura « Nous allons voir cela. » Il tira de sa poche une mince boîte de cuivre remplie d'une pâte noire ayant l'aspect et la consistance du cirage et dit au détective qui surveillait l'inculpé « Défaites-moi la main gauche de cet homme. » Le prisonnier tressaillit. James Molescott s'en aperçut. Il saisit son revolver et s'écria « Obéissez, et pas de résistance, l'homme, ou je vous casse la tête sans hésitation. »« Oh, je ne crains rien, je suis innocent, » répondit le prisonnier, et il se laissa faire comme s'il eût été un automate. M. Schmitz lui saisit la main gauche et lui fit successivement appuyer ses 5 doigts sur la pâte noire contenue dans la boîte de cuivre. Puis, il l'obligea à imprimer sur une feuille de papier blanc posée sur le bureau du chef de la sûreté l'empreinte de ses doigts ainsi noircie. Ce fut ensuite au tour de la main droite. Le prisonnier ne dit pas un mot. Il semblait absent. Quand ce fut fini, M. Schmitz, laissant les feuilles sur le bureau de Molscott, se retira et revint quelques instants plus tard, suivi d'un homme en blouse blanche portant sur son dos la porte sur laquelle l'assassin de la Tournai avait laissé sa sanglante empreinte. Le chef du service anthropométrique tenait lui-même en main 2 fiches en carton sur lesquelles avaient été collées les empreintes des doigts de John Strobbins, prises lors de son dernier emprisonnement. M. Schmitz sortit de sa poche une large loupe et, au milieu d'un silence angoissé, examina les 3 empreintes, celles collées sur les fiches, celle de la porte et celle du prisonnier. Ce dernier conservait son air d'indifférence abrutie. James Molscott, certainement plus anxieux que lui, fixait le directeur du service anthropométrique d'un regard ardent. Enfin, après 20 minutes d'examen, M. Schmitz leva la tête, il posa sa loupe sur la table et dit « Bien que du premier coup d'œil ma conviction eût été faite, j'ai tenu à examiner plusieurs fois les différentes empreintes qui me sont soumises. Il n'y a aucun doute, je le dis bien haut, elles proviennent toutes des mêmes mains. Vous pouvez d'ailleurs, M. Molscott, vous en assurer facilement. Oh, je vous crois. » James Molscott ne demandait qu'à croire. Il croyait même d'avance. Ainsi, aucun doute, c'était bien John Strobbins, l'assassin. Il se tourna vers le prisonnier, et d'une voix que la joie faisait trembler, il s'écria « Qu'avez-vous à répondre, John Strobbins ?»« J'ai à répondre que je ne suis pas John Strobbins. »« Ah, et qui êtes-vous ? Je serais heureux de le savoir. »« Alors vous n'avez qu'à le chercher ?» répondit le prisonnier d'un ton hargneux. James Molscott commençait à être au bout de sa patience, qui était courte. Il reprit « Donc, M. Schmitz ne s'y connaît pas, et moi-même, je suis un imbécile et... » Molscott s'interrompit. Il venait d'avoir une idée. Comme un ressort qui se déclenche, il se leva et bondit sur le prisonnier. Il lui saisit les bras et lui retira ses manchettes. L'une d'elles était dégarnie de son bouton et une jumelle d'or, marquée JS, retenait la seconde. James Molscott eut un rire nerveux. Il brandit au bout de son bras le fragile bijou et glapit. « Est-ce là, bandit ? Y as-tu pensé ? Tu as laissé l'autre dans la chambre où tu as assassiné l'honorable Harry Boulder et où un détective l'a trouvé. Hein, tu ne pensais pas à celle-là ? » John Strobbins haussa les épaules. Vous me faites suer, mon brave homme, dit-il. Vous êtes trop bête, moi, John Strobbins. Conduisez-moi ce bandit dans une cellule, hurla Molscott, renonçant à rien tirer du prisonnier. Et surveillez-le par les 100 000 diables. John Strobbins, j'irai te voir exécuter. Ses cris, ses menaces semblaient ne pas troubler le prisonnier. Il cracha sur le tapis et docilement se laissa emmener par les 2 détectives. Tandis que M. James Molscott murmurait au chef du service anthropométrique. Quand même, je ne le reconnais plus. Il était si poli lorsqu'il se contentait de voler. Maintenant qu'il assassine, il a pris les allures véritables du bandit qu'il est. Le soir même, les journaux de San Francisco publièrent le récit détaillé de l'arrestation de John Strobbins, assassin de l'honorable Harry Boulder. Et ils célébrèrent les louanges de l'héroïque James Molscott, qui à lui seul avait découvert John Strobbins et l'avait immédiatement arrêté. Ainsi, le chef de la sûreté de San Francisco se réhabilitait aux yeux de ses concitoyens. À vrai dire, la culpabilité de John Strobbins rencontrait beaucoup d'incrédules. Nombre de citoyens de San Francisco se refusaient à croire qu'il eût commis un crime aussi odieux que l'assassinat d'un vieillard. Parmi ces derniers, M. Stanley Howard, il avait ses raisons pour cela, se distinguait par son zèle. Il ne cessait de répéter à qui voulait l'entendre qu'une monstrueuse erreur judiciaire se préparait. Cependant, il fallait bien croire à la culpabilité puisque, à défaut des aveux du criminel qui opposait un mutisme farouche au juge d'instruction, les empreintes de ses doigts offraient un témoignage écrasant et irréfutable. L'instruction fut rapidement faite, John Strobbins se renfermant dans un mutisme dont il ne sortait que pour injurier le juge qui l'interrogeait, et aucun de ses complices n'ayant pu être pris malgré les efforts de James Molscott. Après 3 semaines de détention, le juge annonça au célèbre détective cambrioleur qu'il allait passer devant la cour d'assises dans 5 jours. John Strobbins se borna à hausser les épaules. Mais, reconduit dans sa cellule, il réclama enfin l'assistance d'un avocat, ce qu'il avait refusé jusque-là. Maître Darling et son secrétaire vinrent donc le visiter le lendemain. Introduit dans sa cellule, ils restèrent une demi-heure avec lui et se retirèrent sans vouloir faire la moindre déclaration aux journalistes qui les attendaient à la porte de la prison. Ils revinrent le lendemain et le surlendemain voir le prisonnier sans qu'on pût rien savoir. Enfin, le jour du procès arriva. Une foule énorme, massée depuis la veille devant le palais de justice de San Francisco, se rua, sitôt les portes ouvertes, dans la salle d'audience, qui fut bientôt emplie, si bien que plus de 500 personnes n'y purent trouver place. Il faut bien le dire, le public fut déçu. John Strobbins apparut sale et loqueteux, la barbe hirsute et les cheveux en désordre. À l'interrogatoire traditionnel du juge Morlaix sur son état civil, il se borna à répondre « Je vous dis que je ne suis pas John Strobbins ». Des huées de l'assistance accueillirent cette sotte affirmation. James Molescott vint témoigner que l'accusé était certainement Strobbins. Le détective Anthony Preston affirma sous serment qu'il reconnaissait Strobbins pour l'avoir vu sortir de la maison du crime. Le chef du service anthropométrique fit passer sous les yeux des jurés les empreintes des doigts de John Strobbins et une photographie de celle découverte sur la porte. Elles étaient bien identiques. « On n'a jamais pris d'empreintes !» hurla l'accusé. « Vous n'avez qu'à vous en assurer. Voyez mes doigts. Je suis victime d'une machination infernale. » M. Schmitz haussa les épaules. Il demanda au juge la permission de reprendre les empreintes des doigts de l'inculpé séance tenante. Cela lui fut accordé. Il eut rapidement terminé et fit passer au juré la feuille de papier sur laquelle, devant tout le monde, John Strobbins venait d'appliquer ses doigts. Cette fois-ci, plus le moindre doute. Le juge remercia le directeur du service anthropométrique et fit comparaître le directeur de la San Francisco Life Company. M. Stanley Howard fut sublime. En reconnaissant l'accusé, il obligeait ainsi sa compagnie à payer l'assurance souscrite par lui. Cependant, il n'hésita pas. « L'accusé est bien celui qui est venu conclure avec moi une police d'assurance au nom de John Strobbins. Bien qu'il ait notablement changé sa physionomie, je le reconnais sans crainte de me tromper. « Monsieur Howard ou Howard, je ne vous ai jamais vu. Vous êtes un idiot ou un malhonnête homme ?» Le directeur de la San Francisco Life haussa les épaules et alla s'asseoir furieux. Ainsi, l'accusé était confondu. Le juge le somma lors d'expliquer l'emploi de son temps. « Il va maintenant falloir nous dire, John Strobbins, ce que vous faisiez pendant la nuit du 17 juin, au cours de laquelle fut assassiné l'honorable attorney général Harry Boulder, et du 19, où vous vit le détective Anthony Preston. Anthony Preston ne m'a jamais vu. Mon témoignage vaut le sien, et c'est à vous de prouver que je suis coupable. Je ne suis pas John Strobbins, je ne connais pas l'attorney Harry Boulder, et je ne comprends rien à toute cette affaire. Condamnez-moi, si vous voulez. » Malgré tous ses efforts, le juge ne put rien tirer d'autre de l'accusé. Il donna donc la parole au prosecuting attorney, l'avocat général. Celui-ci, à grands traits, retraça les principaux exploits de John Strobbins et termina en affirmant que l'assassinat était la fin logique d'une pareille existence. Il demanda énergiquement la mort pour punir l'odieux forfait commis par l'accusé. Après quoi, Maître Darling se leva. Avec un grand talent, il essayait d'excuser son client et fit appel à la pitié du jury. Ses paroles restèrent sans écho. Le public était désillusionné sur le beau John Strobbins, devenu une dégoûtante épave humaine. « Vous n'avez rien ajouté pour votre défense ?» demanda le juge à l'accusé. « Non, je n'ai pas à me défendre, je suis innocent, jugé par des imbéciles !» goya John Strobbins. Une rumeur d'indignation accueillit ses cyniques paroles. « Silence !» glapit un huissier. John Strobbins regarda autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un et reprit « « D'abord, j'en ai assez de toute cette comédie. Garde, faites taire l'accusé, ou emmenez-le » D'une solide bourrade, les deux gardiens, encadrant le détective cambrioleur, l'empêchèrent d'en dire plus long. John Strobbins haussa les épaules et se tut. Le jury sortira dans la chambre des délibérations, dont il revint quelques instants après, avec un verdict impitoyable. Le juge s'adressa, et d'une voix forte, annonça que John Strobbins, reconnu coupable de vol, escroquerie et assassinat, était condamné à mort. Quelques applaudissements claquèrent. John Strobbins ne broncha pas, il ne dit pas un mot. Docilement, il suivit ses gardiens qui le ramenèrent à la prison. 6 jours après sa condamnation, John Strobbins fut conduit sur la chaise électrique. Ceux qui assistèrent à l'exécution furent unanimes à déclarer que le condamné avait certainement perdu l'usage de sa raison. En sa qualité de chef de la sûreté, ce fut James Molescott qui vint, à 6 heures du matin, lui annoncer que ses derniers moments étaient venus. « John Strobbins, » dit-il d'une voix que l'émotion faisait trembler, car malgré tout, il se sentait une sympathie obscure pour l'homme contre lequel il avait tant lutté. « Il faut vous préparer à mourir. Avez-vous quelque chose à déclarer ?» Le condamné, qu'une camisole de force entravait, se dressa, hagard. « Quoi ? John Strobbins, mourir ? Je ne suis pas John Strobbins, moi !» James Molescott haussa les épaules. « C'est entendu, mon garçon. C'est tout ce que vous avez à dire. Je ne veux pas mourir. C'est une plaisanterie. Je suis innocent. Laissez-moi !» James Molescott n'insista point. Il fit signe aux deux gardiens. Ceux-ci ligotèrent les jambes du condamné qui se débattait en poussant des hurlements incohérents et le portèrent dans le sous-sol où ils l'assirent sur la chaise fatale. Le médecin lui fixa sur le crâne un casque de cuivre et, ayant mis ses chevilles à nu, les entoura de cercles de même métal que le casque. Puis, il alla tourner un commutateur fixé au mur de granit. Un courant de 20 000 volts traversa instantanément le corps du condamné qui, pendant un instant, se tordit en d'atroces convulsions. Puis il se raidit et ne bougea plus. Le médecin constata la mort. L'acte de décès était préparé. Il fut immédiatement signé par les témoins, le directeur de la prison, l'attornais, James Molescott et le médecin. Le corps du nommé John Strobbins, détaché de la chaise électrique, fut emporté et enterré dans un coin du plus proche cimetière. Un peu triste malgré tout, James Molescott, qui avait également assisté à l'inhumation, se retira. 7 heures du matin sonnaient aux horloges de la ville. Le chef de la sûreté, se sentant fatigué, se hâta vers l'hôtel de la police. Il y arriva bientôt, ayant gagné son bureau, s'étendit sur un divan et ne tarda pas à s'endormir, après avoir ordonné qu'on le réveillât à 9 heures. Cependant, l'exécution de John Strobbins, annoncée par des éditions spéciales des principaux journaux de San Francisco, avait été rapidement connue dans la ville. En se rendant au building de la San Francisco Life Insurance, M. Stanley Howard apprit cette désagréable nouvelle. Il s'y attendait. Mais pourtant, il en fut péniblement affecté. Ainsi, par sa faute, la San Francisco Life allait devoir payer 3 millions de dollars. L'esprit chagrin, M. Howard franchit le somptueux hall et entra dans son bureau. Pour la première fois depuis 10 ans, il était en retard, 9h10. Il s'était arrêté pour lire les détails, insignifiants d'ailleurs, de l'exécution de John Strobbins. À la porte de son bureau, l'huissier le salua et dit « Deux gentlemen attendent, monsieur le directeur. » « C'est bien. Vous ferez entrer dans 2 minutes, » répondit Stanley Howard, heureux d'échapper aux tristes pensées qui l'obsédaient. Il retira son léger pardessus et, avec un soupir, alla s'asseoir devant son bureau. Presque aussitôt, 2 élégants gentlemen entrèrent et le gratifièrent d'un magistral coup de chapeau. L'huissier se retira. « Gentlemen, » commença Stanley Howard en se levant, « veuillez vous asseoir, je vous prie. » Les gentlemen s'inclinèrent. L'un d'eux, souriant, commença. « Cher monsieur, je suis monsieur José Reynaud, le bénéficiaire de l'assurance sur la vie souscrite ici par mon infortuné ami John Strobbins, que Dieu ait son âme. » Stanley Howard tressaillit, il pâlit. « C'est bien, je vais vous faire un chèque. Avez-vous des pièces d'identité ? Voici, acte de naissance, photographie et signature légalisée. J'espère que vous avez, suivant les instructions de ma lettre datée du jour de la condamnation de mon noble ami John Strobbins, avisé la Californian Bank, du paiement important qu'elle allait avoir à me faire, n'est-ce pas ? Parfaitement, gentlemen. Vous avez la police d'assurance sur vous. La voici. Tout est en règle, merci. » Stanley Howard poussa un soupir. Il alla vers un coffre-fort scellé derrière lui dans le mur, l'ouvrit et en tira un carnet de chèques. Ainsi se terminait l'affaire conclue avec John Strobbins. Il fallait payer car autrement, c'eût été faire un tort énorme à la San Francisco Life Insurance Company. Le conseil d'administration avait donc décidé de faire honneur à la police souscrite par le détective cambrioleur, mauvaise affaire, mais qui, somme toute, allait constituer la plus formidable publicité qui puisse être pour la San Francisco Life. Stanley Howard, s'étant rassis devant son bureau, libella son chèque. Sa main trembla un peu en écrivant « Payez à M. José Reynaud la somme de 3 millions de dollars dont vous débiterez notre compte. » Il lui rapidement terminé et tendit le chèque à M. Reynaud, qui, après l'avoir examiné, le mit dans sa poche et dit « Voulez-vous être assez aimable, cher monsieur Howard, de nous accompagner à la Californian Bank ? Cela évitera bien des formalités. » Le directeur de la San Francisco Life n'en était plus à cela près. Il répondit « Comme vous voudrez, messieurs, je suis à vous. » Trop aimable, vraiment. Stanley Howard, la démarche lasse, remit le carnet de chèque dans le coffre-fort, qu'il referma, puis enfila son pardessus et sortit aux côtés des deux hommes. 10 minutes plus tard, Howard et ses compagnons arrivaient à la Californian Bank, où José Reno présenta le formidable chèque que venait de lui remettre le directeur de la San Francisco Life Company. « Faut-il vous ouvrir un compte, gentlemen ?» demanda le caissier, obséquieux. « Non. Versez-moi la somme en billets de $1,000. » Le caissier ne fit aucune objection. Il compta 3 000 billets de $1,000 à José Reno contre le chèque dûment acquitté. Reno compta les précieuses banknotes, en fit un paquet et le tendit à son compagnon qui le serra sous son bras. « Maintenant, dit-il, cher monsieur Howard, laissez-nous vous remercier de votre bonne grâce et de la correction avec laquelle vous avez réglé notre petite affaire. Peut-être m'assurerai-je un jour sur la vie, et dans ce cas, n'en doutez pas, je ne manquerai pas de penser à vous. » Sur ces mots, Reno et son compagnon serrèrent la main du directeur de la San Francisco Life et d'un pas tranquille, rejoignirent une puissante automobile qui venait d'arriver devant la Californian Bank. Ils y montèrent. La puissante voiture démarra aussitôt à toute vitesse. À l'intérieur, Reno alors se mit à rire. Ce brave Howard n'est vraiment pas aussi physionomiste qu'il l'a affirmé devant la cour d'assises. Il ne t'a même pas reconnu, John. John Strobbins, c'était lui, sourit avec satisfaction. « Eh, ça ne veut rien dire. Quand je le veux, on ne me reconnaît pas facilement, moi. Ouf. Je t'avoue que je suis heureux que tout soit fini. Cela devient vraiment dur de gagner sa pauvre vie. » John Strobin soupira. Il tira d'un étui d'or une fine cigarette égyptienne et l'alluma d'un geste gracieux. M. Stanley Howard, cependant, avait regagné son bureau à la San Francisco Life Insurance Company. Maintenant que l'argent était versé, il convenait de n'y plus penser, mieux, de penser à le récupérer en annonçant à toute l'Amérique le beau geste de la compagnie d'assurance qui, bien qu'ayant traité avec un criminel, avait loyalement tenu ses engagements, et quels engagements ? $3 millions. M. Stanley Howard, donc, s'étant installé dans son cabinet de travail, défendit qu'on le dérangeât sous quelque prétexte que ce fût, et se mit en devoir de rédiger l'annonce devant porter au nu la magnificence de la San Francisco Life Insurance Company. Après une heure de réflexion, il crut avoir enfin trouvé une formule définitive. Il crayonna quelques mots sur un papier et sonna. « Envoyez-moi une dactylographe, » dit-il au planton accouru. La dactylographe accourut. Elle s'installa dans un coin devant une machine à écrire et attendit, les doigts recroquevillés au-dessus des touches. « Vous y êtes, miss ?» fit Stanley Howard. « Oui, je commence. » La San Francisco Life Insurance Company, la plus puissante, la plus riche, la plus ancienne, la plus... Des pas précipités s'entendirent dans l'antichambre, le bruit d'une discussion retentit. « Quoi ?» hurla le directeur de la San Francisco Life en se retournant, furieux. « J'ai défendu !» La porte s'ouvrit. James Molescott, les yeux hors de la tête, le chapeau de travers, fit irruption dans le bureau. Un huissier qui le poursuivait l'attrapa par le pan de son manteau. Le chef de la sûreté se retourna et d'un coup de poing asséné de toutes ses forces sur la mâchoire de l'huissier l'assomma à demi. L'homme s'écroula en gémissant. « Mr. Howard !» hurla James Molescott, sans faire attention à la dactylographe qui le regardait, épouvanté. « Vous n'avez pas payé l'assurance de John Strobbins, hein ?»« John Strobbins ?» bégaya Stanley Howard, complètement ahuri. « Oui, John Strobbins, il est vivant, il s'est moqué de nous. Mais j'arrive à temps, hein ?»« Comment ? Bien sûr que j'ai payé, et il y a plus d'une heure. » James Molescott regarda le directeur de la San Francisco Life Insurance Company avec un mépris non dissimulé. « Pauvre idiot !» dit-il. « Ah ça, dis donc, Mr. Molescott, faites attention à vos paroles, n'est-ce pas ?»« Oh, excusez-moi, je ne sais plus ce que je dis. Le misérable, j'aurais dû me méfier. Je voulais vous téléphoner de la prison, mais le téléphone ne marchait pas, alors je suis venu. »« La prison, expliquez-vous par l'enfer. John Strobbins a-t-il été, oui ou non, exécuté ce matin ?»« Non, c'est un autre qui a été électrocuté, » fit James Molescott en s'essuyant le front. Il se laissa tomber sur un fauteuil et dit « Faites sortir ces gens, je vous dirai cela. » Stanley Howard, aussi pâle que James Molescott était rouge, se tourna vers la dactylographe, car l'huissier s'était éclipsé, craignant de recevoir un deuxième coup de poing, et balbutia « Veuillez vous retirer, miss. » La jeune fille, furieuse de ne pas pouvoir entendre la suite d'une conversation qu'elle devinait intéressante, lança un mauvais regard à James Molescott et s'en alla en faisant claquer la porte derrière elle. « Eh bien ?» demanda Stanley Howard. Le chef de la sûreté de San Francisco cracha sur l'épais tapis et grommela. « Eh bien ?»« Eh bien, John Strobbins n'est pas mort et vous avez été escroqué de 3 millions de dollars. Lisez cette lettre qu'un cuidam est venu en automobile apporter pour moi à l'hôtel de la police il y a 3 quarts d'heure. Vous serez renseigné. » Et James Muscott tendit à son interlocuteur une élégante enveloppe mauve qui portait comme suscription à M. James Muscott, chef de la sûreté de San Francisco. Stanley Howard en tira une feuille de papier à lettres de même couleur, entièrement couverte d'une écriture haute et aristocratique. « Et j'ai été aussi à la prison. J'ai vérifié. » John Strobbins dit vrai. « Quel homme ! Ah, il lui fait un rude policier !» soupira James Muscott. Stanley Howard, la fièvre aux tempes, lut. « Cher Muscott, étant donné nos anciennes et cordiales relations, il m'eût été réellement fort pénible de vous laisser dans le marasme calamiteux où vous vous trouvez, j'en suis sûr, à l'heure présente. Ma mort a dû porter un coup cruel à votre cœur sensible, et pourquoi vous le cacher, cette pensée a été une des plus tristes préoccupations que m'a valu l'affaire que je viens, Dieu merci, de mener à bien. Je ne suis pas mort. Je n'ai pas été électrocuté. Je ne suis pas l'assassin de l'honorable Harry Boulder. J'espère que la joie de me savoir vivant tempérera en vous l'amertume de me savoir innocent et libre. Ma liberté, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous la démontrer. Reste mon innocence. Si vous voulez me faire l'honneur de lire jusqu'au bout ces modestes lignes, j'ose croire que vous serez fixé. Donc, la nuit où s'accomplit le crime pour lequel j'étais poursuivi, je me promenais avec un ami dans la Florida Avenue. Vers 3 heures du matin, je me trouvais en face du numéro 261, lorsque, au travers d'une fenêtre éclairée du premier étage, je vis distinctement une ombre dessinant avec exactitude une main humaine brandissant un poignard s'abaisser. « Cela, dis-je à mes amis, c'est quelqu'un qu'on assassine. 261, c'est le cottage de l'attorney Harry Boulder. C'est un de ses clients qui se venge, allons voir. » Grâce à mon rossignol, qui ne me quitte jamais, j'ouvris la porte et, suivi de mes 2 amis, pénétrai dans la maison. La porte de la chambre à coucher au premier était ouverte lorsque nous arrivâmes. Un homme, vêtu de haillons sordides, se tenait droit, immobile, comme hébété, devant la tournée Harry Boulder qu'il venait de poignarder. Nous nous précipitâmes sur lui. L'animal était fort. Il se défendit avec rage et vigueur. Mais enfin, nous en eûmes raison et le ligotâmes. Il nous prit pour des policiers et ricana. « Ah ah, vous m'avez !»« N'empêche que je l'ai refroidi, la tournée. Il m'a fait condamner injustement. » « Je lui avais promis de lui faire son affaire. C'est fait. Jack Wilburton n'a qu'une parole. » Nous ne lui répondîmes pas, indécis de ce que nous devions faire de lui, car ce n'est pas notre métier d'arrêter les gens. Soudain, un de mes amis me dit « Oh, regarde, John, il te ressemble étonnamment. » Je vérifiais cette affirmation. C'était vrai. Cet assassin possédait un regard semblable au mien. Son visage reproduisait mes traits tels qu'ils seront sans doute dans 10 ans. Un éclair, dirais-je, de génie, non, je suis modeste, me traversa l'esprit. Je m'écriai. Descendons cet imbécile à la cave. Il est bientôt 4 heures. Nous viendrons le chercher demain. J'ai une idée. Mes amis m'obéirent. Nous transportâmes l'assassin dans la cave du cottage, et après l'avoir bâillonné, nous les laissâmes, décidés à venir le chercher la nuit suivante. Mon idée, la voici. M'assurer sur la vie pour une forte somme, me faire passer pour l'assassin de la tournée, me faire condamner à mort et faire exécuter le véritable assassin à ma place pour toucher la prime. C'était hasardeux, mais bien calculé puisque j'ai réussi. À 9 heures du matin, j'avais terminé mon enquête et appris que la tournée avait renvoyé son domestique et que chacun le croyait à la campagne. Tranquille de ce côté, je me rendis à la San Francisco Life Insurance Company, où je m'entendis avec M. Stanley Howard. Vous lui ferez mes amitiés si vous le voyez. La nuit suivante, je n'eus pas le temps de m'occuper de mon assassin. J'attendis encore 24 heures et vins le chercher en automobile avec mes 2 amis. Le détective Anthony Preston nous aperçut au moment où nous quittions la maison. Je m'en réjouis. Ah, j'oubliais de vous dire que c'est volontairement que je laissais contre la porte l'empreinte de ma main, enduite de couleur rouge et non de sang. Vos experts ne sont pas fins. Et je perdis mon bouton de manchette marqué J.S. Je conduisis mon prisonnier dans une maison que je fis louer en face de la prison, et là, mon premier soin fut de lui faire écrire l'aveu de son crime, dont je joins la photographie à la présente, de crainte qu'il ne se perde. Jack Wilburton y consentit avec facilité. Il prétend que la tournée Harry Boulder l'a fait condamner injustement. Cela ne me regarde pas. Ceci fait, j'allais me faire arrêter par vous. Vous imite, mon cher Molescott, une bonne grâce dont je vous saurai éternellement gré. Avouez que j'étais bien camouflé, hein? J'avais vraiment l'aspect d'un ignoble assassin. Cela m'ennuie assez, mais il faut vivre, hélas. Pendant l'instruction et le procès, je jouais mon rôle avec assez d'à-propos, vous en conviendrez. Je niais contre l'évidence être John Strobbins, vous comprendrez pourquoi, oui. Le lendemain de ma condamnation à mort, mes amis, qui avaient établi sous la rue un passage souterrain, allant de ma cellule à la maison qu'ils avaient louée, vinrent pendant la nuit me délivrer et mettre à ma place, et ce n'était que juste, Jack Wilburton, préalablement endormi. La justice n'a rien à me dire. Que demandait-elle? Que l'assassin de l'honorable Harry Boulder fut puni. C'est fait. J'ai ainsi évité une désagréable erreur judiciaire et j'ai gagné $3 millions, toute chose excellente. En déterrant le cadavre de Jack Wilburton, vous aurez une première preuve de la véracité de mes affirmations. La seconde vous sera fournie à la prison, une des dalles de la cellule que j'occupais avant que Jack Wilburton ne me remplaçât recouvre l'orifice du souterrain qui me permit de m'en aller sans bruit. J'ai fini. Il ne me reste, cher monsieur Molescott, qu'à vous prier d'excuser ce gribouillis informe et à nous souhaiter à tous deux une prompte rencontre. Pour vous prouver que c'est bien moi qui vous écris, voici les empreintes de mes doigts. John Strobbins, détective cambrioleur. P.S. Inclut l'adresse de l'armurier chez qui Jack Wilburton a acheté son poignard. Stanley Howard, ayant terminé sa lecture, tendit la lettre à James Molescott d'un geste là. Et le plus triste, conclut le chef de la sûreté de San Francisco, c'est que le gaillard dit vrai. Ce n'est pas lui l'assassin, c'est Jack Wilburton. J'aurais dû m'en douter. Ah, c'est une sale affaire. Qui nous coûte exactement $2,640,000, monsieur Molescott, conclut Stanley Howard, tristement. Ainsi s'achève John Strobbins s'assure sur la vie par José Moselli.